Si on cherche à savoir ce qui angoisse ou même ce qui fait fantasmer notre société en ce moment, on a souvent le réflexe d'écouter les discours politiques.
Ouais, ou de regarder les sondages, quoi.
Exactement. Sauf que, au beau milieu de cette ère numérique, qu'on dit être la plus fragmentée de l'histoire, bah, des millions de gens s'enferment encore volontairement pour dévorer des pavés de 500 pages.
C'est vrai, et c'est là que ça devient fascinant.
En fait, pour comprendre l'âme humaine aujourd'hui, le meilleur outil, c'est pas une enquête d'opinion. C'est juste un ticket de caisse de librairie. Ce que les gens lisent en secret s'en dit beaucoup plus sur eux que n'importe quelle déclaration publique.
C'est une excellente porte d'entrée pour notre décryptage d'aujourd'hui. Surtout avec les données brutes de ce mois de mars 2026.
Ouais, on a une montagne de sources aujourd'hui.
Tout à fait. On a croisé les palmarès de la FNAC, de Rue des Livres, de BDZoom, avec les analyses de Momox et du blog de l'édition française. Et un paysage super complexe se dessine. On est dans un paradoxe total.
Un paradoxe, c'est-à-dire?
Bah, d'un côté, on a une quête presque désespérée pour des émotions viscérales, immédiates, et de l'autre, une volonté féroce de regarder en face un monde réel qui est devenu, franchement, affreusement complexe.
C'est clair. Et le premier truc qui saute aux yeux dans ces données, c'est la résilience insolente du livre physique.
Ah oui, on nous annonce la mort du papier depuis, quoi, 20 ans?
Au moins, et pourtant, le papier, il représente toujours plus de 80% des parts de marché en France. C'est énorme.
C'est massif, oui.
Avec le Festival du Livre de Paris du 17 au 19 avril au Grand Palais, où la BD est d'ailleurs à l'honneur, les éditeurs sortent genre 500 à 600 nouveautés rien que ce mois-ci.
Ça fait beaucoup de titres qui essayent d'exister en même temps.
Mais grave. Du coup, la vraie question, c'est comment un livre arrive à surnager là-dedans? La recommandation, elle vient plus du tout des critiques littéraires classiques.
Non, ça c'est fini. Aujourd'hui, ça vient d'un ouragan algorithmique. Je parle bien sûr de BookTok.
Bon, on va décortiquer un peu tout ça. Cet ouragan a complètement changé la recette du best-seller, non?
Complètement. Quand on regarde la domination de la littérature de genre, on comprend que le succès ne repose plus forcément sur le style de l'auteur. C'est surtout une promesse de réaction physiologique immédiate.
Ouais, c'est exactement ce qu'on voit avec la dark romance ou la romantasy. En fait, les lecteurs n'achètent plus un livre, ils achètent un trope, comme on dit sur Internet.
Ah, les fameux tropes.
Voilà. S'ils prennent un livre étiqueté Enemies to Lovers, genre deux ennemis qui finissent par tomber amoureux, ils savent exactement quand la tension va basculer. C'est un peu le fast-food de l'émotion.
L'expression est bien trouvée.
Bah, on consomme des titres comme Lake Stone de Sarah Rivens ou Mile High de Lee Stumpford pour avoir une dose garantie d'adrénaline ou de larmes. Surtout avec ces histoires de relations toxiques ou de romances sportives.
C'est vrai que l'analogie du fast-food est tentante. Mais je pense que ce serait sous-estimer ce besoin. Ce n'est pas juste de la malbouffe intellectuelle.
Ah bon? C'est quoi alors?
Gènes sur lesquels on n'a aucune prise. Du coup, ouvrir une immense roman de fantasy comme Onyx Storm ou Un palais d'épines et de roses, c'est s'offrir un contrat clair.
Je vois. Les dragons, la magie, tout obéit à des règles strictes.
Exactement. L'engouement pour Les Sept Maris d'Evelyne Hugo, c'est pareil. On cherche la catharsis, le moment où on va pleurer, mais on veut que ce soit sécurisé, maîtrisé. C'est une réaction de survie face à notre engourdissement numérique.
C'est hyper intéressant. Et cette envie de contrôle, ça explique carrément le triomphe du thriller psychologique, non? Surtout Freda McFadden.
Oh là là, oui, Freda McFadden.
Sur Rue des Livres, elle monopolise tout le classement avec sa série sur la femme de ménage. On a La Locataire, Les Secrets de la femme de ménage. C'est un vrai raz-de-marée.
C'est une ingénierie redoutable. Le thriller domestique prend l'endroit le plus sûr au monde, la maison, et en fait un piège.
Et le point de vue de la femme de ménage, c'est génial. Cette travailleuse invisible qui voit tous les secrets de la famille. Les chapitres se terminent sur des cliffhangers calculés au millimètre pour te faire faire une nuit blanche.
C'est la promesse d'une efficacité rythmique totale. Et c'est marrant parce que même les auteurs historiques s'y mettent.
Ah oui, et tu penses au retour de Guillaume Musso?
Exactement. Son nouveau roman, Le Crime du Paradis, joue sur ces mêmes codes, mais avec un style plus classique. Il situe ça à Antibes dans les années 20.
Un hommage à Agatha Christie, c'est ça?
Voilà, un huis clos parfait. Il promet au lecteur que tout le désordre sera résolu à la dernière page. Le contrôle absolu.
C'est rassurant, mais d'un autre côté, nos sources montrent une fracture super nette. Ce printemps 2026, on a aussi un public qui fait tout l'inverse.
Oui, la fameuse confrontation avec le réel.
Voilà. Au lieu de fuir dans la magie, une grande partie des lecteurs décide de regarder le chaos, la géopolitique sanglante et les traumas sociaux bien en face. On passe de l'anesthésie à la confrontation brutale.
C'est le revers de la médaille. Quand l'actualité est incompréhensible, un livre de fond, ça permet de ralentir le temps. Ça aide à digérer l'horreur.
Et les sujets sont lourds. En gardant à l'esprit qu'on ne fait que rapporter les thèmes de nos sources de manière neutre, on voit des collisions directes avec la géopolitique. Yasmina Khadra sort Le Prieux de Bethléem, ou un moine palestinien qui nappe un éditeur parisien.
Oui, et côté enquête, il y a le livre de Carl Zero sur l'affaire Epstein qui cartonne. Ça plonge dans les réseaux sombres du pouvoir.
C'est glaçant. Il y a aussi ce besoin de mettre des mots sur les traumatismes. Le témoignage de Gisèle Pellicot et la joie de vivre est bouleversant. C'est une blessure indicible transformée en résistance publique.
Et ce besoin d'affronter l'histoire, il est aussi macroscopique. Par exemple, le livre de William Oduro, Histoire mondiale du Covid.
Ah ouais, présenté comme un vrai thriller géopolitique.
C'est ça. Le public ne veut pas un résumé médical, il veut les coulisses. Le livre se base sur des documents déclassifiés, des notes de renseignement. On veut comprendre les rouages de cette crise.
Pareil pour l'histoire pure. Ludivine Bantini publie La bourse ou la vie, sur le Front populaire de 36. C'est fou comme ça résonne avec les tensions d'aujourd'hui.
La fiction aussi s'empare de ces batailles. Pauline Clavière, avec Spécimen, explore la pédocriminalité avec une vraie profondeur psychologique.
Et Marie Vareille, avec Nous qui avons connu Solange. Une grande fresque féministe avec une héroïne de 107 ans. Même la BD s'y met, avec Nos amours modernes, une enquête sur le couple hétérosexuel aujourd'hui.
Tous ces titres montrent un refus de l'austérité académique. Les lecteurs veulent s'informer, mais ils veulent que ce soit narratif.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les essais adoptent les codes du roman pour faire passer des concepts super arides. L'exemple d'Argent, une histoire de l'humanité, est fabuleux.
Le livre de David McWilliams.
Oui. C'est sur l'évolution de la monnaie. Ça a l'air indigeste, mais l'auteur t'explique que Le Magicien d'Oz, écrit à la fin du 19e siècle, c'est en fait une allégorie féroce sur la déflation et l'étalon or.
C'est génial comme détour. La route de briques jaunes, c'est l'étalon or. La cité d'émeraude, ce sont les billets verts.
Et le magicien lui-même, un politicien fraudeur. C'est brillant. On retrouve ça aussi dans ce livre britannique complètement absurde de Stuart Reynolds.
Ah, comment les chats nous apprennent à résister au fascisme ?
Exactement. Le titre fait sourire, mais le fond est hyper rigoureux. L'auteur analyse l'indépendance féline pour donner des leçons sur la résistance face à l'autoritarisme.
Il faut bien enrober la philosophie politique aujourd'hui. Et Bruno Patineau explique très bien pourquoi dans le temps de l'obsolescence humaine.
Son livre sur le cerveau et la dopamine.
Oui. Il montre que notre cerveau est saturé, fragmenté par l'économie de l'attention. Lire un essai ardu demande un effort anormal. Donc, pour garder le lecteur, il faut le récompenser avec ces moments eureka, comme l'anecdote du magicien d'Oz.
Ouais, ça a du sens. Mais du coup, on a ce grand écart permanent. D'un côté, des méga succès émotionnels pour TikTok, et de l'autre, des essais hyper pointus. Et selon les prévisions de 2026, ça reflète une mutation économique brutale.
Tout à fait. C'est la disparition de la classe moyenne du livre.
La polarisation totale du marché. Avant, il y avait les best-sellers, bien sûr, mais surtout une grande majorité de livres qui se vendaient à quelques milliers d'exemplaires, juste assez pour faire vivre un auteur.
Et cette zone médiane, elle s'effondre.
C'est un peu un copier-coller de Hollywood, non ?
Si on relie ça à la situation globale, c'est exactement ça.
Au cinéma, la comédie romantique à budget moyen a disparu. Il reste les blockbusters Marvel à des centaines de millions et le cinéma indépendant de niche façon A24. Le livre fait la même chose.
La comparaison est parfaite. En 2026, pour survivre, t'as deux options. Soit tu crées un événement mondial massif avec un marketing viral énorme, soit tu cultives une niche ultra engagée.
Les lecteurs prêts à tout acheter dans un domaine précis.
Exactement, que ce soit de la fantasy hardcore ou des essais historiques.
Ça explique d'ailleurs la mutation des librairies indépendantes. Elles ont pigé que vendre du milieu de tableau, ça paie plus le loyer. Elles deviennent des tiers-lieux militants.
Oui, des bastions hyper spécialisés, des librairies dédiées à 100% à l'écologie radicale ou au féminisme intersectionnel. On y vend un sentiment d'appartenance.
C'est une vraie hybridation. Les formats aussi s'hybrident. On ne pense plus juste en pages imprimées. 2026, c'est l'apogée du streaming du livre et de l'audiobook.
Les œuvres sont conçues en multiformat dès le départ. Mais derrière tout ça, il y a un acteur invisible qui change tout, l'intelligence artificielle.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie ? Parce que l'IA, on craignait qu'elle écrive des romans à la place des auteurs. Mais en fait, dans les tops des ventes, c'est pas le cas.
Non, son rôle est beaucoup plus silencieux et logistique.
C'est devenu le super calculateur des éditeurs. L'IA analyse les données pour ajuster les tirages au cordeau. Le but, c'est d'éviter le pilonnage, la destruction des invendus, donc c'est aussi écologique.
Et c'est l'IA qui rédige les résumés pour les plateformes, qui gère le ciblage marketing automatisé. Ça pose d'ailleurs de grosses questions sur les droits d'auteur, parce que les auteurs voient leurs revenus classiques baisser.
Oui, l'auteur devient un entrepreneur. Il doit ouvrir un Patreon, écrire des newsletters payantes, faire des conférences. Écrire le livre, c'est presque devenu juste une vitrine.
C'est une vraie redéfinition industrielle.
Et il y a une ironie mordante là-dedans. D'un côté, on imprime sur du papier certifié écolo, on célèbre le bel objet physique, la résistance analogique. Mais pour vendre ce papier, on utilise des algorithmes prédictifs invisibles qui savent exactement ce que tu vas ressentir.
Ça soulève une question importante. Comment l'industrie peut-elle utiliser l'IA comme outil logistique sans détruire la valeur de la littérature, qui est justement la rencontre humaine?
La friction, l'imperfection, ouais.
L'IA est géniale pour prédire nos réactions. Mais elle ne peut pas inventer la complexité organique d'une vraie rencontre.
L'exemple parfait de ça, ce mois-ci, c'est Matisse. Plein soleil de Stéphane Manel.
Ah, un livre magnifique.
L'histoire vraie entre Henri Matisse, vieux et diminué, et Monique Bourgeois, une jeune infirmière très cash, qui deviendra Sœur Jacques-Marie.
Leurs trajectoires sont diamétralement opposées. Et c'est là qu'est la magie de la littérature. Cette relation ne rentre dans aucune case de BookTok.
C'est pas une simple romance ou le cliché de la muse.
Non, c'est un chassé-croisé spirituel. Le vieil artiste agnostique initié à la transcendance par une jeune religieuse. C'est cette amitié pleine de frictions qui pousse Matisse à concevoir la chapelle du Rosaire à Vence.
Son chef-d'œuvre absolu.
Voilà. Ce genre de rencontre humaine, c'est l'anti-algorithme par excellence. Aucune IA ne pourrait inventer une telle densité émotionnelle à partir de nos simples données d'achat.
C'est une super façon de résumer où on en est. 2026, c'est vraiment l'année de l'hybridation assumée. Le livre n'est pas mort, il a juste muté.
Il s'est adapté ?
Ouais, il s'est scindé en deux. D'un côté, les plaisirs immédiats poussés par les réseaux, et de l'autre, des réflexions profondes sur nos crises. Le tout géré par une industrie en pleine révolution technique.
Mais ça laisse songeur. Si l'intelligence artificielle est désormais capable de cibler nos habitudes d'achat avec une telle précision...
Ouais.
Et que BookTok prouve qu'on réagit de manière hyper prévisible à des tropes émotionnelles précis, combien de temps reste-t-il avant qu'une IA ne conçoive de A à Z le best-seller parfait?
Le livre qui générerait la quantité exacte de dopamine et de larmes pour dominer les ventes mondiales.
Exactement. Ça nous amène à une question vertigineuse pour clore notre analyse. Lisons-nous encore pour découvrir le point de vue d'un auteur ou cherchons-nous simplement le reflet algorithmique de nos propres désirs?